Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Nouveau report de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, initialement prévu pour aujourd'hui. En effet, les députés nationaux ne s'accordent pas sur certaines candidatures. Hier, plus de 400 élus ainsi qu'une quarantaine de chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée ont rencontré le chef de l'État à ce sujet. La RDC a commémoré hier 17 mai la journée des forces armées. À cette occasion, le vice-premier ministre et ministre de la Défense a déposé une gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais à Kinshasa et une équipe d'aumôniers de l'armée a exhorté tous les militaires à travailler pour la défense de la patrie. Et puis, l'invité de ce matin, Isaac Kalunda, professeur à l'université de Kinshasa, il nous parle de la conférence débat qu'il a animée la semaine dernière au Maniema, le thème « L'économie politique, de la performance de l'économie congolaise de 1960 à 2023 ». À tous et à toutes, bonjour. L'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, prévue initialement pour ce samedi, vient d'être reportée. C'est ce qui ressort de l'entretien de vendredi entre le président de la République et 406 députés nationaux, ainsi qu'une quarantaine des chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation, qui constituent la majorité parlementaire. Prenant en compte le rejet de certaines candidatures proposées par le Présidium, Félix-Antoine Tshisekedi recommande, à l'exception de Vital Kamerhe, dont la candidature a déjà été soumise aux primaires, qu'un ticket consensuel de l'Union sacrée soit renégocié dès ce samedi. Explication Michel Kifindangoy.
Au cours de cette première rencontre avec le chef de l'État, les députés de l'Union sacrée attestent que les échanges ont été démocratiques et houleux. Après avoir entendu les uns et les autres, le président Félix Tshisekedi a pris acte des revendications des députés. Didier Kamundu.
Il a été décidé que le président des regroupements politiques ainsi que le présidium vont se réunir demain pour pouvoir reparler du ticket en famille et trouver une solution à proposer au chef de l'État.
Cette résolution est une victoire à la lutte des députés contre le népotisme du présidium de l'Union sacrée, affirme Steve Mbikai.
La conséquence aussi est que, comme nous l'avons prévenu, ce samedi, il n'y aura pas élection du tout à l'Assemblée nationale. Donc, on va repartir à zéro, à part Honorable Kamerhe qui a été élu aux primaires. Il reste maintenant qu'on voit, et avec les poids politiques, quelles sont les forces qui vont entrer dans ce bureau.
Dans son allocution, le chef de l'État fustige les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. Félix Tshisekedi menace même la dissolution de l'Assemblée nationale si les députés continue les mauvaises pratiques d'exiger de l'argent avant de voter une loi.
Dans l'actualité aussi, la commémoration de la journée des forces armées le 17 mai, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense, a déposé à l'occasion une gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais situé à la place Forescom à Kinshasa. C'était lors d'une brève cérémonie officielle qui a regroupé les hauts officiers et hommes de troupes en ce jour dédié aux soldats morts pour la défense de la patrie et ce encore sous le drapeau. Bien avant, une équipe d'aumôniers de l'armée a exhorté tous les militaires à travailler pour la défense de la patrie et surtout pour la paix, gage de développement pour toute nation. Je vous propose un extrait de cette exhortation avec l'un des aumôniers, propos recueillis par Billy Van Lutumba.
Aujourd'hui, nous sommes devant ces mémorials parce qu'il y a des procureurs de la paix. Ces gens-là qui sont morts à cause de la paix et pour le Congo. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons dire à Dieu merci parce que tu nous as donné un beau pays. Un pays de délices, un pays grand, beau et rempli de potentialités, qui est envié par tout le monde. Mais peut-être nous-mêmes, nous ne comprenons pas la grandeur de notre pays et ce que le pays regorge. La Bible nous dit aussi que nous devons être des procureurs de la paix. Partout où nous sommes, il y a des unités qui sont disloquées à cause d'un manque de paix. Procurons la paix partout où nous sommes, dans nos unités, dans nos foyers. Jésus est venu mourir pour l'humanité, mais nous, armée, police, nous mourons pour la paix du Congo. Notre pays a besoin de la paix. Et qui doivent apportez la paix. Si ce n'est pas vous les militaires, si ce n'est pas vous les policiers, si ce n'est pas vous la population qui doit collaborer avec l'armée, avec la police, pour qu'il y ait la paix. Le développement pourrait venir seulement s'il y a la paix dans le pays.
Par ailleurs, Laurent Désiré Kabila est le symbole de la résistance dont devait se servir comme modèle la jeunesse congolaise pour la réforme de l'armée. C'est cette démarche qui pourra faciliter la RDC à faire face aux pays agresseurs. C'est ce qu'estime l'historien Muongia Wakavwaro de Butembo à l'occasion de la journée nationale de la révolution et des forces armées. Pour y arriver, il encourage les jeunes à intégrer les forces de défense et de sécurité pour servir leur pays. Muongia Wakavwaro, joint par Grévis Salom.
Il est le symbole de la résistance parce que ça n'a pas été facile pour qu'il puisse se séparer de Rwandais, Ougandais qui venaient de s'implanter très durement dans les institutions de notre pays parce que certains étaient devenus des ministres, travaillaient à la présidence et cela n'a pas été facile. D'ailleurs, c'est suite à cette résistance qu'il est allé même jusqu'au sacrifice suprême. La jeunesse d'aujourd'hui devrait reconnaître que Laurent Désiré Kabila aimait le travail. L'armée reste le globule blanc de la nation. Donc toute nation qui n'a pas une armée forte est vouée à la perdition. C'est pourquoi nous demandons à la jeunesse de réintégrer l'armée et redorer l'image que nous avons eue. Nous avons été une armée forte de l'Afrique centrale et petits pays comme les Rwandais et les Burundi qui sont 64 fois plus petits que les nôtres sont en train de nous malmener. C'est vraiment étonnant nous parce que si les jeunes réintégrent l'armée, ils pourront redorer l'image que nous avons eue. Le Congo peut être la première nation de l'Afrique centrale et s'est confirmé dans les concerts des nations.
En plus bref, notez que le président algérien Abdelmadjid Tebboune offre un don humanitaire de plus de 120 tonnes de vivres et non-vivres au gouvernement congolais. Information contenue dans un communiqué parvenu à Radio Kapi vendredi 17 mai à Kinshasa. Parmi ses produits, du sel, du sucre, l'huile végétale, les pâtes alimentaires, des biscuits, des médicaments et des produits pharmaceutiques, les cartables scolaires, les vêtements pour filles et garçons et des fauteuils roulants. Et puis, Nord Kivu, les entreprises minières se désengagent totalement de toutes les zones occupées par les rebelles. Ce désengagement implique le boycott concernant l'achat de tous les produits miniers en provenance de ces zones, notamment la zone de Masisi qui est sous occupation des rebelles du M23. Pendant ce temps, l'exploitation s'est faite sur le terrain dans ces zones. Mais à qui profite ce désengagement et les minerais exploités? Denise Lukeso.
Pour la présidente provinciale de la Chambre des mines au Nord Kivu, c'est pour le respect des normes internationales que les opérateurs miniers se désengagent, dit Madame Yvette Mwanza.
Aujourd'hui, on ne peut pas acheter le minerai qui provient de Masisi. On se tourne vers Walikale et on achète aussi le minerai qui provient de Lubero. C'est parce que nous sommes dans une zone de conflit et au risque. Et aucun consommateur final aujourd'hui ne peut accepter le minerai qui provient, par exemple, du territoire de Masisi. Vous allez vendre ça à qui? Donc on ne peut que se désengager.
En dépit de ces boycotts, l'exploitation minière se porte bien dans les zones sous occupation. À qui profitent ces désengagements? Justin Daichimie, député national élu de Masisi et coordonnateur au sein de la Coopérama, explique.
Ils ont déjà mis un ministre national à Rubaya en charge des mines. Aujourd'hui, les minerais de Masisi sont acheminés directement vers le Rwanda, étiquetés par les services de traçabilité du Rwanda et c'est vendu au marché mondial comme les minerais du Rwanda. À la communauté internationale de s'élever pour prendre des mesures qui peuvent arrêter ce pillage des minerais du Congo par les Rwandais.
Avec l'occupation de la mine de Rubaya, ce sont des recettes significatives qui échappent ainsi au trésor public. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. 26 agents de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, CNCALPC de Butembo, viennent d'être outillés pour le marquage et le traçage des armes légères et munitions illicites. C'était au cours d'une formation de 3 jours organisée conjointement par les sections armes et embargo et DD3R de la MONUSCO au Béni. L'objectif est de lutter contre l'insécurité dans cette région en proie à l'activisme des groupes armés. John Fimbo, l'un des participants, parle ici des acquis de cette formation au micro de Guylaine Kassassia.
Nous sommes déjà capables de profiler au moins l'arme et cela va nous permettre de bien savoir tracer même l'arme, reconnaître son origine et son usine de fabrication et cela nous permettra à ce que nous puissions savoir celui qui devra détenir cette arme et comment il va l'user et le dernier détenteur sera certainement retrouvé grâce à cet apprentissage. Cela ne se faisait pas avec beaucoup plus de technicité mais au moins quand même nous avons été capacités pour quitter les points A vers et puis B à M. Il a été question aussi d'éclairer les éléments nécessaires de marquage à partir de l'usine de fabrication jusqu'au marquage qui vient se faire au niveau du pays. État, on nous a appris comment faire les mesures de sécurité de l'arme parce que ce sont des outils que nous ne pouvons pas manipuler pêle-mêle. La tête est déjà bien faite. Même après le départ de la MONUSCO, nous serons à mesure de mettre en pratique ce que CEJA nous a donné comme aide technique.
Direction le Haut-Katanga. Le camion transportant frauduleusement les feuilles de cathode de cuivre interceptées par la brigade antifraude au poste de péage de Kanyaka sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa a été ramené au gouvernorat de province le mercredi 15 mai. Pour le coordonnateur de cette brigade, ce genre de pratique ainsi que les auteurs sont à décourager car cela risque d'asphyxier l'économie de la province. On écoute à ce sujet Philippe Kibawa, directeur provincial de la brigade antifraude. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous avons intercepté un camion transportant des feuilles de cathode de cuivre en partance vers l'extérieur du pays au niveau de notre checkpoint de contrôle de Kanyaka. Que la dite cargaison n'a pas pu présenter des documents de routine de traçabilité. C'est pratiquement la quatrième fois que la brigade antifraude vient de faire ce joli coup de filet. Nous dirons que c'est un réseau qui commence d'habitude dès les usines et en cours de route, ce sont plusieurs acteurs qui interviennent. Aujourd'hui, nous tenons à sensibiliser ce genre de délinquants fiscaux ou ces détourneurs qui se lancent dans cette pratique de la mafia organisée, les opérateurs économiques et autres acteurs, de ne plus s'adonner à ce genre de pratiques. La brigade antifraude est sous l'autorité de l'État, son Excellence Jacques Kabila Katoué, gouverneur de province, compte assainir le climat des affaires dans sa province. La BRAF ne va pas se lasser et ne se laisserait pas conduire à ce genre de pratiques et de fraudes ni de corruption. Donc nous sommes là pour favoriser que notre économie soit plus sécurisée.
Province du Congo central, l'insalubrité menace la stabilité du pont Lukaya jeté sur la rivière portant le même nom sur la nationale numéro 1 dans le territoire de Kasangulu. La société civile locale qui tire la sonnette d'alarme affirme que le dessous de cette passerelle est devenu un déversoir d'immondices sous l'œil impuissant des services de l'ordre. Le président de la société civile appelle les autorités compétentes à prendre des mesures pour décourager cette mauvaise habitude. Reportage de Nana Plurich Mambou.
Ces immondices qui s'entassent sous les ponts Lukaya de Kasangulu empêchent le passage des eaux et compromettent ainsi la pérennité de ces ponts qui traversent la route nationale numéro 1. Selon Jacques Komba, président de la société civile, ces déchets de tout genre ne sont pas seulement déversés par la population, mais également par les agents de la brigade de l'assainissement de Kasangulu. Ces immondices dégagent aussi des odeurs nauséabondes. Les habitants des maisons environnantes et les tenanciers des maisons commerciales en souffrent et se voient exposés aux maladies respiratoires. Aussi, plusieurs habitants de certains quartiers de Kasangulu se baignent dans la rivière Lukaya où ces déchets sont jetés. Contactés, les responsables de la police de Kasangulu se disent conscients de la situation. Pour le commissaire supérieur Benjamin Banza, il faut créer un poste de police dans ces coins pour arrêter ceux qui jettent des ordures sous les ponts Lukaya. Et pourtant, selon Jacques Komba, président de la société civile du territoire de Kasangulu, ce territoire disposait d'un véhicule d'évacuation des déchets dont la Banque mondiale avait doté à cette entité dans le cadre d'un projet d'assainissement. Mais les autorités l'utilisaient pour leurs courses personnelles. À ce jour, ce véhicule en panne est hors usage. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Rendons-nous au Maniema. Nous apprenons qu'un gorille sème la terreur au village Usukwamoleka. Nous sommes à 18 kilomètres sur l'axe Maïko dans le territoire de Lubutu. Le président de la société civile Force Vive du Maniema, antenne de Lubutu, fait savoir que cet animal devient un danger permanent pour la population. Moutoro Mumbere et Jean-Pierre appellent les autorités à trouver une solution à ce problème avant que le pire n'arrive. Il est joint par Florence Kizalunga.
À Oskwamoleka, village situé à 18 km axe Maïko, un gorille sème des terreurs au champ des populations. Pour que les femmes y accèdent, il faut qu'elles partent en groupe ou être accompagnées par les hommes. Un rapport verbal a été donné par le directeur de l'école primaire Oskwamoleka, M. Mombe Mwezimoya, aux agents de CFCL Kanyama qui revenaient de leur patrouille ce dimanche dernier dans le parc national de la Maïko, mais aucune suite. C'est ainsi que la société civile Force Vive du Maniema antenne de Lubutu, alerte aux autorités de l'ICSN, territoire de Lubutu, sous l'ordre de l'administration du territoire, de diligenter une enquête rapide à Oskwamoleka afin de procéder au refoulement de cet animal avant que ce dernier ne cause des dégâts.
Actualité internationale.
Afrique du Sud, après près de deux semaines de recherche, l'opération de sauvetage visant à retrouver les ouvriers piégés dans les décombres d'un immeuble effondré le 6 mai dernier dans la ville de Georges prend fin. Les autorités annoncent la fin des recherches des survivants alors que 19 personnes sont toujours portées disparues. L'effondrement de l'immeuble résidentiel de 5 étages en construction a causé la mort d'au moins 33 personnes. Il s'agit de l'un des pires effondrements d'immeubles en Afrique du Sud. Les autorités indiquent qu'il y avait une soixantaine de travailleurs sur le site. Lorsque le bâtiment s'est effondré, 29 survivants ont été extraits des décombres. Certains d'entre eux sont toujours hospitalisés. L'opération de sauvetage aura mobilisé plus de 600 membres des services d'urgence. La cause de l'effondrement n'a pas encore été établie.
L'invité.
Il s'agit du professeur Isaac Kalonda Kanyama de l'Université de Kinshasa. En séjour au Maniema la semaine dernière, il a animé une conférence débat sous le thème « L'économie politique de la performance de l'économie congolaise de 1960 à 2023 ». Il est avec Florence Kiza.
Professeur Isaac Kalonda Kanyama, bonjour.
Bonjour.
Dans une conférence débat, vous parlez de la performance de l'économie congolaise de 1960 à 2023. Professeur, c'est quoi l'objectif et quel est le gouvernement selon vous qui a connu une faible performance économique?
Mes objectifs, c'était de voir les régimes politiques et les gouvernements et les performances en termes de contribution à la croissance économique. Pratiquement, j'ai calculé l'effet net de l'intervention ou des politiques économiques menées par les différents gouvernements. Sur les 8 gouvernements pratiquement de la 3e République, il y a un gouvernement qui est ressorti avec une performance négative, c'est l'avant-dernier gouvernement de la République. Quand je dis avant-dernier gouvernement, je ne compte pas les gouvernements qui viennent d'être nommés, qui n'ont encore pas travaillé pour qu'on puisse juger sa performance économique.
Et cela a été dit à quoi?
Bon, je crois que c'est au niveau des politiques, des effets dominants, de quelle politique économique a eu un effet dominant. Parce que dans la 3e République, il y a eu 3 politiques économiques qui ont eu un effet sur la croissance économique. Notamment, il y a la politique d'accumulation du capital qui a eu un effet positif, alors que la politique monétaire et la politique des prix, si je parle des prix liés au secteur de production, ces deux politiques ont eu un effet négatif. Donc, ça dit, les deux politiques qui ont eu un effet négatif, l'effet négatif a été plus dominant que l'effet positif de la politique d'accumulation du capital. Je crois que c'est ça la raison principale de cette performance négative.
A contrario, monsieur le professeur, quel est alors ce gouvernement depuis la première république jusqu'à la dernière république qui a connu une performance économique?
Bon, les constats d'abord, c'est que chaque gouvernement qui est passé a une meilleure performance que les gouvernements qui ont suivi. Sauf bien sûr le dernier gouvernement qui a eu une performance meilleure que le gouvernement qui l'avait précédé. Donc, si nous partons déjà à partir du gouvernement de l'Union nationale, donc ce gouvernement a une performance positive, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le gouvernement qui est venu après ce gouvernement-là, donc après les élections de 2005, a une meilleure performance en termes des impacts sur la croissance économique.
Vous avez constaté que chaque fois qu'il y a l'arrivée d'un gouvernement, on ne tient pas compte des acquis du gouvernement précédent. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous donnerez comme conseil?
Bon, le conseil, c'est que les hommes passent et les institutions restent. Et il faut que les dirigeants intériorisent cela. On ne va pas, quand on vient à un poste de responsabilité publique, balayer tout ce qui a été fait avant. Il y a toujours des effets, des aspects positifs sur lesquels on peut construire. Et c'est ça les conseils que doivent être intériorisés par tous les dirigeants. C'est que quand vous venez à un poste, il faut toujours chercher quels sont les acquis qu'il faut pérenniser au lieu de me faire table rase, quoi.
Après avoir eu une idée sur la croissance économique du pays depuis son indépendance jusqu'à maintenant, et si on vous recrutait comme consultant pays, quels sont les problèmes auxquels vous vous attaquerez en premier?
Bon, le premier problème auquel je m'attaquerai, c'est d'abord de résoudre les problèmes de la faiblesse de la capacité productive de l'économie. Et les études que j'ai faites, bien sûr, je n'ai pas fait un modèle de croissance élargi à d'autres facteurs, mais celui que j'ai exploité montre que la politique d'accumulation du capital est une politique qui a contribué positivement à la croissance économique. Et s'il y a des actions à mener prioritairement, c'est dans ces secteurs-là de l'accumulation du capital, capital productif, pour y compris les infrastructures, les équipements, pour augmenter la capacité productive du pays. À cela, il faut diversifier les pays, il faut des industries de transformation, les routes, les chemins de fer et toutes les infrastructures qui sont bonnes pour la croissance économique.
Mais professeur, il y a toujours cette question d'inégalité en termes des salaires. Il y a ceux qui touchent plus et ceux qui touchent moins. Et si on rationalisait la paix des institutions, combien les pays gagneraient en termes d'investissement?
Les pays gagneraient beaucoup parce que le salaire faramineux pour une petite catégorie de la population ne fait que renforcer l'inégalité des revenus, qui est d'abord très élevée parce qu'en 2022, le coefficient guinéen était de 44,7. C'est déjà beaucoup. Et quand on doit encore donner à une certaine catégorie de personnes un salaire très élevé, cela ne fait que creuser la distance en les inégalités entre la majorité de la population et une petite proportion de la population. Il est certes vrai qu'avec ce qui est prévu d'être payé, les pays peuvent bénéficier beaucoup en termes d'infrastructure parce que, d'après mes calculs, si on peut réduire la consommation ou les salaires de ces personnes qui ont un salaire très élevé à environ 10 000, on peut construire par an au moins 1 000 km de route et ça viendrait renforcer la capacité productive du pays au lieu de renforcer les inégalités. Donc ça, c'est un problème de choix, un problème d'arbitrage. Et si on veut développer les pays, il faut prendre les décisions qu'il faut pour y parvenir.
Professeur Isaac Kalunda Kanyama, merci.
C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.